Radio Classique.
Franck, dites-nous de quoi vous parlerez dans les grandissiers de l'histoire. Non, j'y arrive.
Oui, si,
c'est vendredi. J'ai la mâchoire qui se décroche en vérité. Mais... Je recommence. Bonjour Franck.
Bonjour David.
Comment ça va? Qu'y a-t-il au sommaire des grandissiers de l'histoire sur Radio Classique?
Il y a un dynamisme d'un seul coup.
Ah oui, ça y est, je me suis fait une piqûre.
Je vais vous parler d'un grand dossier. Alors là, vraiment, ça fait partie des grands sujets de l'histoire de l'Europe. Assez méconnu en France, vous allez voir, c'était au début du XVIIe siècle. On appelle ça la défenestration de Prague.
Tout cela est très prometteur.
N'est-ce pas ?
Franck Ferrand dans un instant sur Radio Classique. Il est 8h, il est 9h. Les informations, Pierre Pilet.
Le gouvernement dévoile ce matin une série de propositions pour renouer le dialogue avec les médecins libéraux qui se sont mis en grève pendant 10 jours. La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, va proposer un amendement permettant de renoncer à l'encadrement plus strict de la délivrance des arrêts maladie, la mise sous objectif. Amendement dans le cadre du projet de loi sur la lutte contre les fraudes sociales et fiscales actuellement examiné par le Parlement. Autre annonce, la suppression des mesures permettant des baisses unilatérales de tarifs. Elles ont été adoptées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Le gouvernement qui juge impossible le vote d'un budget à l'Assemblée nationale. Les débats prévus aujourd'hui et lundi sont reportés. Les discussions renvoyées à mardi. Le Premier ministre Sébastien Lecornu va peut-être revenir sur son engagement, ne pas recourir à l'article 49.3 qui permet d'adopter un texte sans vote à l'Assemblée. Autre voie possible, faire passer le budget par ordonnance, c'est-à-dire sans consulter le Parlement. Le plan des États-Unis pour mettre fin à la guerre à Gaza est entré dans sa deuxième phase. Le Conseil de la paix a été formé. Sa composition va être annoncée prochainement, selon Donald Trump, qui va présider cet organe. Ce conseil va superviser un comité palestinien composé de 15 membres, un ingénieur civil, ancien haut fonctionnaire de l'autorité palestinienne a été choisi pour diriger ce comité. Il va devoir lancer la reconstruction d'un territoire en ruine. Le président des États-Unis qui a salué hier le geste magnifique, selon ses mots, de l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, elle a offert à Donald Trump la médaille de son prix Nobel de la paix lors de leur rencontre à la Maison Blanche. La campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle au Portugal s'achève aujourd'hui. Le candidat d'extrême droite André Ventura, favori du scrutin dimanche, mais il a très peu de chances de l'emporter au second tour s'il se qualifie.
Suivez le Point Bourse avec Bourse Direct, le partenaire de tous vos placements. Bourse, assurance vie, épargne.
Et pour vivre l'ouverture, aujourd'hui nous retrouvons Laetitia Volga. Laetitia, bonjour, quelle est la tendance ?
Bonjour Pierre, bonjour à tous. Eh bien, le CAC 40 vient d'ouvrir dans le rouge. Comme ces derniers jours, pas de mouvement spectaculaire. L'indice perd seulement 0,15%. A contrario, Wall Street s'est approché de ses sommets historiques. Hier, les investisseurs se sont rués sur les actions technologiques après les résultats du Taïwanais TSMC. Le géant planétaire des semi-conducteurs, parce qu'il fabrique entre autres les plus de Nvidia, a été applaudi pour le bond de 35% de son bénéfice net, qui a atteint sur les 3 derniers mois de 2025 le niveau record de 16 milliards de dollars. Son action a gagné plus de 4%, une hausse qui s'est donc propagée à tout le secteur américain de l'intelligence artificielle. Les valeurs bancaires ont aussi progressé grâce au trimestriel supérieur aux attentes de Goldman Sachs et de Morgan Stanley. La séance de ce vendredi est clairement plus pauvre en événements, exception faite des chiffres de la production industrielle en décembre aux États-Unis. Ils donneront des indications quant à la dynamique de la première économie mondiale, ce qui est essentiel pour évaluer les prochaines évolutions de la politique de la Réserve fédérale, même si aucune baisse des taux n'est anticipée par les investisseurs d'ici le mois de juin. À Paris, je vous rappelle que le CAC 40 recule de 0,15% à 8300 points.
Merci Laetitia et prochain Point Bourse lors des informations de 10h. Pour le moment, il est 9h04. Vous écoutez Radio Classique et votre matinée continue avec les grands dossiers de l'histoire. Franck Ferrand est là. Franck, bonjour.
Bonjour mon cher Pierre, je vous emmène en Bohême. Vous connaissez Prague,
oui.
Et comme moi, vous aimez cette somptueuse ville. Eh bien, nous allons aller en Bohême, à Prague, vivre un des événements les plus incroyables du XVIIe siècle.
Les grands dossiers de l'histoire avec Franck Ferrand sur Radio Classique.
Nous sommes à l'été 1617 dans la cathédrale Saint-Guy de Prague. Pour ceux qui connaissent Prague, évidemment, c'est un des hauts lieux de cette ville absolument somptueuse qui est devenue très baroque par la suite, qui déjà à l'époque possède en 1617 l'essentiel du patrimoine qu'on y voit encore. L'air est lourd d'encens, plus chargé qu'on ne l'avait connu depuis longtemps. Le cérémonial est un cérémonial catholique strict, tout à fait réglé. Les prélats sont nombreux, rassemblés autour du chœur, avec leurs chasubles très richement brodées, leurs hautes mitres, et avec des gestes lents, dans un latin de solennité, on répète les paroles sacrées. Ferdinand II s'avance pour être couronné roi de Bohême. C'est pas un prince de compromis, Ferdinand II. Sa piété est austère, tout à fait assumée, on le voit, là, à genoux, qui, sans chercher du tout les regards de l'Assemblée, prie longuement. Il est en entretien avec Dieu. Et autour de lui, l'aristocratie de Bohême occupe la nef. Les grands portent leurs habits de cour, éclatants ou sombres selon les lignages, avec les chaînes d'or, les manteaux doublés de fourrure. Beaucoup ont conservé l'épée au côté. C'est un signe de rang et d'autonomie. On ne verrait pas ça dans les cours occidentales, bien entendu, dans le cœur d'une cathédrale. Les armes familiales ont été brodées, gravées. Elles rappellent que le pouvoir du roi repose d'abord sur le consentement de ses grandes familles. Tous ont voté son élection. Ils observent en silence, parmi eux, pas mal de nobles protestants qui prennent acte d'un changement de ton. Oh, il suffit d'assister à cette cérémonie pour comprendre ce qui est en train de se passer. La vérité, c'est que dans cette assemblée, la moitié de l'aristocratie grince des dents. Pas par irrévérence, mais disons par inquiétude. Chacun sait ce que Ferdinand a fait dans les états héréditaires. Il a gouverné en roi catholique, pour pas dire très catholique, et à Prague ce jour-là, pour l'instant il n'y a pas rupture, mais beaucoup dans ceux qui assistent à la cérémonie, nombreux sont ceux qui ont compris que l'équilibre est menacé. Ferdinand II n'est pas arrivé seul à Prague. Sa candidature était appuyée par son cousin, l'empereur Matthias, soucieux d'assurer la continuité dynastique au sein de la maison de Habsbourg. Et le soutien de l'empereur pèse lourd quand les États de Bohême se prononcent, vous l'imaginez. C'est ce qui va permettre donc à Ferdinand d'accéder au trône selon les formes du royaume. Il est roi de Bohême maintenant. Il hérite d'un pouvoir légal, assez fragile, disons-le, fondé sur, vous l'aurez compris, des concessions et des garanties mutuelles. On est encore dans quelque chose qui pourrait faire songer à l'ancienne féodalité. À ce moment précis, rien ne permet de mesurer la portée de cette élection. En cherchant à gouverner selon ses principes, eh bien, Ferdinand va mettre à l'épreuve le fragile équilibre très longuement constitué au sein de tous ces potentats de Bohême. Ce couronnement, qui est un couronnement après bien d'autres, ce couronnement ouvre en vérité une brèche. C'est le début d'une crise, qui va entraîner l'Europe dans une guerre qui va durer, elle, plusieurs décennies.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors, je reviens un petit peu en arrière, si vous voulez bien. Au siècle précédent, au XVIe siècle, on a vu la réforme s'imposer en Europe. Il y a eu des décennies de conflits religieux. Il y a eu en France les guerres de religion. Vous savez, quand on arrive au début de ce XVIIe siècle, on est dans une sorte de statu quo, si vous voulez. Un équilibre précaire qui s'est installé avec des lignes confessionnelles posées, stabilisées, pas par apaisement, par épuisement, c'est ça la vérité, c'est que le combat a cessé, faute de combattants. Et la Bohême s'inscrit dans cet équilibre un petit peu incertain. Le royaume est protestant en majorité, dominé par les héritiers de Jan Hus, vous savez, les Hussites, ce qu'on appelle l'hussitisme. Aujourd'hui, on les appelle, aujourd'hui, au ce début du XVIIe siècle, les anciens Hussites, on les appelle les Utraquistes. Et ce royaume appartient au Saint-Empire romain germanique qui est fondé lui-même sur l'élection et sur le compromis. Un Saint-Empire romain germanique officiellement catholique, mais dont de nombreuses parties sont évidemment protestantes. En 1609, le précédent empereur, il s'appelait Rodolphe, le grand empereur Rodolphe, Rodolphe II, a tenté de fixer, par sa fameuse lettre de majesté, un équilibre un peu plus stable. Le texte de la lettre de majesté garantit la liberté de culte aux protestants de Bohême. Il leur reconnaît des droits politiques précis, notamment le droit de s'organiser pour défendre les fameuses libertés si chèrement conquises au fil des combats. Ça supprime pas les tensions, ça, mais ça permet de les inscrire dans un cadre juridique et d'établir un équilibre politique. Vous voyez comme c'est complexe, hein. Et quand Mathias va succéder donc à Rodolphe, on est là en 1612, déjà on a vu les choses vaciller. L'équilibre a commencé à se fragiliser. Et il se trouve que Rodolphe n'avait pas d'héritier direct. Il prépare sa succession en désignant son cousin Ferdinand, dont il connaît l'intransigeance religieuse, catholique. Et dans le même temps, le centre du pouvoir s'est déplacé vers Vienne. Et les autorités catholiques de Bohême se sont donc senties renforcées par la monarchie habsbourg-viennoise, très catholique. L'élection de Ferdinand comme roi de Bohême en 1617 marque donc un tournant, là où les souverains qui l'avaient précédé gouvernaient par des ajustements, des conciliabules. Ferdinand a l'intention de gouverner selon ses principes. Ce qui veut dire que la crise est en train d'apparaître au grand jour. Et dans la Bohême du Nord, à Broumov exactement, les autorités catholiques ont fait fermer déjà une église protestante qui venait d'être construite en plus. Et officiellement, l'argument était juridique. Le bâtiment aurait été édifié sur des terres qui dépendaient d'un monastère catholique, donc il n'avait rien à faire là. Bref, en attendant, pour la noblesse protestante, c'est un véritable choc. Les protestants de Bohême voient dans cette fermeture de temple une manœuvre délibérée pour essayer de contourner la lettre de majesté, sans l'abolir encore, mais quand même, c'est une entorse au contrat. Et après, à Klostergrab, qui est une autre église protestante, eh bien, on va assister à une démolition en règle, au prétexte que ce temple se trouvait sur des terres ecclésiastiques, encore une fois, avec un message clair, hein. On n'abolit pas la liberté de culte, seulement on la rogne, on l'encadre, on la restreint, et tout ça vont provoquer un grand choc. Ce qui jusque-là relevait de tensions un petit peu diffuses est en train de devenir une cause commune. Et pour les États de Bohême qui sont majoritairement protestants, toutes ces décisions constituent la preuve que leur liberté religieuse telle qu'elle avait été garantie en 1609, cette liberté maintenant, elle est violée. Les protestants accusent le souverain catholique, l'empereur Mathias, et puis surtout son successeur désigné, Ferdinand II, roi de Bohême, d'avoir rompu le contrat politique qui les liait à la monarchie. Selon le texte de 1609, les protestants disposaient d'un instrument légal, les défenseurs. Ces défenseurs étaient désignés par les États pour veiller au respect de leurs droits religieux. Eh bien, en mars 1618, les défenseurs en question convoquent carrément une assemblée protestante. Là, la décision est prise. On va adresser à l'empereur une plainte écrite pour rappeler quelles garanties avaient été consenties et pour exiger des sanctions contre ceux qui commencent à vouloir remettre en cause la liberté du culte protestant. Et la réponse impériale arrive. C'est une lettre rédigée sous l'autorité d'un cardinal. La plainte des protestants de Bohême est rejetée. L'assemblée est déclarée illégale. Et toute réunion de ce type est désormais considérée comme interdite. Nous arrivons là à la matinée du 23 mai 1618. C'est ce 23 mai 1618 que vont avoir lieu les événements qui vont faire basculer complètement l'équilibre européen. l'ouverture de l'Othello de Dvorak. À l'époque de cet enregistrement, en 1997, l'Orchestre Philharmonique de Berlin était dirigé par Claudio Abbado.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
C'est tellement beau, Prague, ça a l'air d'être une ville faite pour les fêtes et les plaisirs, et c'est une belle matinée qui a lieu en ce printemps. 1618, on est le 23 mai 1618, un mercredi, veille de l'Ascension, vers 8h30, 4 du matin, quatre hommes quittent la cathédrale Saint-Guy, ils viennent d'assister à la messe, hein. Ce sont les régents du royaume de Bohême qui représentent l'empereur Matthias. Ce sont donc des catholiques qui se rendent à la chancellerie du château pour recevoir une délégation protestante. Je ne sais pas si vous avez visité le château de Prague, très impressionnant là-bas sur les hauteurs de l'autre côté de la Vltava, qu'on appelle la Moldau en allemand. Aux yeux de tous ces représentants, hein, de l'empereur Matthias, il ne s'agit pas d'une réunion particulièrement difficile. Ils sont là pour rappeler à l'ordre les sujets qui sont un peu trop remuants. Voilà, ils sont venus faire des remontrances, c'est exactement ça. Alors ils arrivent, montent dans la tour, au troisième étage de la tour. Hein. On est en train de réarranger les bancs sans hâte. Tout ça a l'air pour l'instant relativement pacifique. Si je dis ça, c'est que vous doutez bien que ça va pas rester très très longtemps. Et puis un petit peu avant 9h, on entend du bruit dans la cour, des voix, des pas, une agitation inhabituelle. Et en se penchant à l'une des grandes croisées, des fenêtres si vous voulez, les régents découvrent un groupe qui est en train d'approcher du château. Or, contrairement à tous les usages et contrairement à ce qu'aurait voulu la moindre des politesses vis-à-vis des représentants de l'empereur, ces hommes qui s'approchent sont armés. Ils ont des épées très visibles, ils ont des dagues. Et la porte de la tour est ouverte, ce qui fait que le groupe va s'engouffrer dans l'escalier, gravir les marches 4 à 4 et bientôt se retrouver là dans la salle. Les régents reculent évidemment vers la cheminée, ils sont stupéfaits de ce qui se passe, mais pour le moment, ils sont pas vraiment inquiets encore. Après tout, ils représentent la puissance souveraine de l'empereur. Hein. Ils pensent que c'est une démonstration, une façon un petit peu de les chahuter. Après tout, l'Empire existe depuis des siècles. Hein. Prague a déjà connu tellement de troubles, et même bien plus graves. Les protestants, qu'ici encore on appelle les utraquistes, donc, ont déjà défié l'ordre établi depuis 200 ans. Mais la réponse qu'ils entendent n'est pas celle qu'ils attendent. Le porte-parole des protestants va lire une déclaration qui a été écrite et les réformés maintiennent leur position au péril de leur vie, de leur honneur et de leur bien. Et là, il y a une question qui tombe. Les régents ont-ils participé à la rédaction de la lettre impériale qui interdit les assemblées ? Les représentants de l'empereur temporisent, ils promettent de transmettre la plainte à qui de droit. Bien sûr que l'empereur sera informé du mécontentement de ses bons sujets, on répondra plus tard. Non, non, on ne veut pas de réponse plus tard, on veut une réponse là, maintenant. Il y a carrément un homme qui a sorti son pistolet et d'autres qui se saisissent maintenant d'un des régents, il s'appelle Martinice. Il est frappé, enfin molesté, disons, désigné comme une sorte de responsable. Et puis on fait de même avec son assistant qui s'appelle Slavata. Et là, on prend une décision. Est-ce qu'on peut parler de décision ? Ça a été décidé très rapidement. Hein. On a ouvert la fenêtre. Et la fenêtre est quand même à 17 de nos mètres du sol. Hein. On est au troisième étage de cette tour. Hein. Et on est très haut. Martinice a compris. Il demande à un confesseur. On se moque de lui. Et puis, on le traîne maintenant jusqu'au rebord de la fenêtre. Il a juste le temps d'invoquer le Christ, la Vierge. Et le voilà, projeté dans le vide, la tête la première. Slavata, c'est très bien ce qu'il attend, hein. Il s'accroche comme il peut au rebord, c'est pathétique, et on va lui écraser les doigts pour le jeter à son tour avec encore plus de violence. Et puis leur secrétaire, qui s'appelle Philippe Fabricius, va être précipité, et là, chose incroyable, certains protestants se penchent depuis la fenêtre, et ils regardent, et ce qu'ils voient les surprend un peu. Ils aperçoivent les trois hommes, donc vous avez compris, on est une vingtaine de nos mètres plus bas. Hein. Eh bien, les trois hommes en question sont pas morts, ils arrivent à se relever, et les voilà qui partent en courant.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il y a un livre qui vient de paraître chez Passé Composé qui s'intitule 1566-1659, La guerre des nations, signée Arnaud Blin. Voici ce que dit Arnaud Blin à propos de cette défenestration de Prague. La tour en question et sa fenêtre existent toujours et on peut visiter les lieux comme le font des millions de touristes chaque année. Pour tout dire, aujourd'hui, le sol en pierre et la hauteur élevée de la fenêtre laissent à penser qu'une telle chute ne saurait être que mortelle. Mais à l'époque, le sol était mou. Et nous sommes au printemps, probablement. Le sol est-il humide? Il est possible que des branches ou de l'herbe aient été entassées au pied de la tour, car, miraculeusement, les trois hommes sortent indemnes de leur chute, laissant la porte ouverte à toutes sortes de spéculations sur ce dénouement improbable. Certains affirment avoir vu la Vierge Marie attraper la cape de Martinich et qu'elle aurait déployé sous lui afin d'amortir sa chute. Dans sa relation des événements, Martinich lui-même dira ne pas avoir vu cela très clairement, bien que cela arrivât effectivement. Plus prosaïquement, on attribuera généralement ce miracle à un tas de fumier sur lequel les trois hommes auraient atterri, explication la plus plausible. En tout cas, celle qui devait satisfaire le mieux les insurgés de Prague et tous ces protestants stupéfaits de voir survivre les trois hommes. Au pied de la tour, c'est bientôt la panique. Hein. Martinich, Slavata et Fabricius sont complètement sonnés, blessés, contusionnés, mais ils ont réussi à se mouvoir. Ils comprennent qu'ils peuvent pas rester sur place. Là, il y va de leur vie. En plus, il y a deux hommes qui se sont immédiatement lancés à leur poursuite, avec ordre de les achever, bien sûr. Les rescapés vont trouver refuge dans le palais voisin du chancelier. Et puis, Martinich va pouvoir quitter Prague et regagner la Bavière. Fabricius prend la route de l'Autriche et Slavata, qui lui est le plus touché des trois, va rester caché à Prague. On va essayer de le protéger. Évidemment, tous portent plainte, tous décrivent l'événement comme une tentative de meurtre, tentative préméditée, et vous imaginez, quand la nouvelle arrive à la cour de Vienne, l'incrédulité et la colère, l'autorité impériale a été publiquement défiée au cœur même du château royal de Bohême. La rupture, désormais, est consommée. À Prague, les États de Bohême vont prendre le contrôle du gouvernement et organiser la résistance. Vous avez bien compris que ces États sont protestants. C'est une assemblée, si vous voulez. Ferdinand II est déposé en tant que roi de Bohême. Vous voyez que finalement, il n'aura pas régné longtemps. Les insurgés élisent un souverain protestant, Frédéric V du Palatinat, ce qui, évidemment, rend le conflit d'un seul coup beaucoup plus vaste. Ça l'allémanise, si je puis dire. Car la Bohême n'est pas un royaume isolé. Hein. Elle est un nœud institutionnel du Saint-Empire. Et donc, c'est tout l'équilibre de cette espèce de mosaïque complexe qui se trouve mise en cause. Les princes catholiques vont se ranger derrière Ferdinand, les puissances étrangères protestantes hésitent et finissent par s'engager. Alors vous comprenez ce qui va se passer, c'est tout un jeu de dominos. L'Espagne va soutenir les Habsbourg, les Provinces-Unies, le Danemark, la Suède finalement vont intervenir et soutenir le camp d'en face. La France, qui pourtant est catholique, n'en est pas moins l'ennemi atavique des Habsbourg et va donc s'allier au camp protestant, non pas par solidarité religieuse, mais pour contenir une puissance impériale qui déjà était jugée menaçante, c'est la politique anti-Habsbourg de la France, et à partir de ce moment-là, ce qui est lancé, vous connaissez, parce que vous connaissez l'histoire, vous savez ce dont je suis en train de vous parler, ce qui est lancé, c'est la célèbre guerre de 30 ans. Ce qui commence donc comme une crise constitutionnelle en Bohême, devient une guerre continentale marquée par un enchaînement d'alliances, d'interventions, de conflits imbriqués, guerre qui va embraser, ravager l'Europe pendant 3 décennies, cette guerre de 30 ans qui durera de 1618 à 1648, lorsqu'enfin la paix de Münster arrivera à mettre un terme à tout ça, mais on sera déjà à l'époque sous la régence d'Anne d'Autriche et en France la férule du cardinal Mazarin. La défenestration n'est pas la cause unique de cette guerre, ça c'est certain, mais elle a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, c'est elle qui a déclenché l'embrasement, cette espèce de meurtre inabouti, de meurtre avorté, a déclenché la mort de dizaines, de centaines, de milliers de combattants à travers l'Europe tout entière.
Vous écoutez Radio Classique.
« Merci beaucoup à Jean-Baptiste Galen. Et voici maintenant Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
Bonjour mon cher Franck, merci à vous pour ce très beau récit. Et alors aujourd'hui, je vais retourner un peu en arrière. Une émission que vous présentiez mercredi dernier, évidemment pour les 200 ans de ce journal que vous lisez tous les jours, Le Figaro. On va retourner à Beaumarchais aujourd'hui pour évoquer encore un peu ce journal mythique avec ses noces de Figaro, avec ce barbier de Séville, bien des ouvrages de Beaumarchais qui ont inspiré aussi Mozart et Rossini.
Eh oui.
Et puis cet après-midi, 14h, c'est la musique de nouveau à l'honneur dans votre émission avec un virtuose du piano, la réincarnation de Franz Liszt, Georges Xifra. Voilà, qui est né à Budapest, en Hongrie, mais qui s'est ensuite installé en France et qui a eu une très belle et longue carrière de ce côté-ci. Merci Franck.
Merci à vous, bonne journée.
Bonne journée, bon week-end.
Référence du service aux entreprises, GSF Propreté et Services s'allie à Pénélope, leader de l'accueil, pour proposer une offre complète de prestations. Des solutions intégrées et sur mesure, essentielles à la performance de vos environnements professionnels. GSF et Pénélope unissent leur savoir-faire et éclairent les rendez-vous échos de la matinale de Radio Classique.
Renault.
Vous connaissez Clio depuis 35 ans, mais saviez-vous qu'elle est aussi la muse de l'histoire depuis la nuit des temps? Aujourd'hui, Renault écrit un nouveau chapitre. Nouvelle motorisation full hybride E-Tech 160 chevaux sans recharge. 1000 km d'autonomie, Open Air Link avec Google intégré et plus de 100 applications. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, découvrez nouvelle Renault Clio.
Jusqu'à 1000 km avec un plein d'essence, donnez WLTP en option selon version. Voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Renault.
Je me suis perdu. Trop d'offres?
On est là pour les soldes.
T'inquiète, j'ai déjà réservé une croisière Costa, tout inclus.
Ok, on se retrouve à la sortie alors.
Ne ratez pas les soldes Costa. Réservez votre croisière d'été avant le 3 février avec 300 euros de réduction par cabine. Info en agence ou sur costacroisière.fr. Costa.
Radio Classique présente le dictionnaire amoureux de la bande dessinée par Benoît Peters. Voyagez au cœur d'un monde où l'image et le texte se rencontrent et où chaque page est une célébration de la richesse du 9e art. Ce dictionnaire amoureux rend hommage aux dessinateurs et scénaristes à l'origine d'univers inoubliables, profondément ancrés dans notre imaginaire. Le dictionnaire amoureux de la bande dessinée par Benoît Peters aux éditions Plomb, en vente partout et sur radioclassique.fr.
Tempétueux, délicat, virtuose. L'orchestre Appassionato et Mathieu Herzog exaltent l'archétype beethovenien avec l'une des pièces les plus fidèles à son image populaire, le concerto pour piano numéro 3. Une œuvre à l'expressivité rare, magnifiée par le toucher du pianiste Ido Barchai. Pour une soirée, vous trouvez sa classique, héroïque, le 24 janvier à la scène musicale.
Radio Classique présente Le Petit Pianiste de Morgan Raoux et Julie Hanen, raconté par Guillaume Gallienne.
La porte du cinquième s'ouvre à la volée. Une vieille dame, assise dans un fauteuil roulant, un plaid improbable sur les genoux, apparaît à contre-jour.
Découvrez une tendre histoire d'amitié entre un petit garçon et une vieille dame réunis par leur amour de la musique. Le Petit Pianiste, un livre jeunesse aux éditions Nathan, en vente partout, avec CD audio et QR code inclus.
Territoires enneigés et enivrants se déploient à la scène musicale. L'archet de la violoniste Lia Petrova vous guide dans l'hypnotisant concerto pour violon de Mendelssohn avant de plonger dans le rêve d'hiver de la première symphonie de Tchaïkovski. Un voyage par l'Orchestre symphonique des Flandres, dirigé par Martin Dendievel, à retrouver ce 21 janvier à la scène musicale.
Bonjour, c'est Franck Ferrand. Vous connaissez et vous plébiscitez les rencontres de la salle Gaveau, où l'histoire et la musique se mêlent. Et bien cette fois, je vous invite à plonger dans l'univers de Bizet. Et c'est avec les très talentueux Eugénie Jauneau, Julien Henrique et Antoine Paloc que nous aurons le plaisir de vous faire découvrir ou redécouvrir Carmen.
Carmen ou la liberté, un concert Radio Classique avec Franck Ferrand, le 19 février prochain, salle Gaveau à Paris. Réservation au 01 49 53 05 07 ou sur salgaveau.com.
Renault. Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offerts.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2 700 euros. Prime maximum, certes énergie déduite, si accordiaque. Troisième et quatrième loyer offerts. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Renault.
Neuf heures trente, midi, changer d'air avec Pauline Lambert.
sur Radio Classique.
Et oui, il est très exactement 9h30 en ce vendredi 16 janvier. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission Changer d'air. Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. C'est cette phrase de Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, qui figure en tête de chaque édition du Figaro, qui fête donc en grande pompe ses 200 ans. Et vous pouvez évidemment réécouter l'émission que Franck Ferrand lui consacrait mercredi dernier. Et cette phrase est donc tirée d'un très long monologue de Figaro au dernier acte du mariage de Figaro. Il croit alors que Suzanne l'a trahi et il devise sur sa vie, sur les relations sociales. Figaro et ce mariage qui a inspiré bien des artistes, Mozart évidemment, qui met en scène cette folle journée, ces folles aventures, le jour donc des noces de Suzanne et de Figaro. Écoutez ici cette ouverture pétillante de Mozart.
Girando, belle belle, curvando in riposo, Narcisa. falsetto ad occhino d'amore, della belle turbando il riposo, narcisetto ad occhino d'amore. Non avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel verniglio d'ondissimo colore, quel verniglio d'ondissimo colore. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti avrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, belle belle curvando in riposo, narcisetto ad occhino d'amore. Belle belle curvando in riposo, narcisetto ad occhino d'amore. Gran guerrieri a far l'acqua, grande stacco, stretto sacco, schiocco in spalla, sciabbia in fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e sui uomini al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante. Non ti avrai farfallone amoroso, notte giorno intorno girando, belle belle turbando in riposo, narcisetto ad occhino d'amor. Belle belle turbando in riposo, narcisetto ad occhino d'amor. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar. Alla gloria militar. Alla gloria di
Non più andrai farfallone amoroso, non petit papillon amoureux, tu n'iras plus tourbillonnant nuit et jour, troublant le sommeil de ces belles. C'est Figaro qui s'adresse ainsi à Chérubin au premier acte des Noces de Figaro de Mozart et de Beaumarchais évidemment. Figaro qui parle donc à ce jeune homme qui doit partir à la guerre et qui en est désolé. Figaro, ici chanté par Thomas Allen, le baryton avec le Philharmonique de Vienne, avec Riccardo Muti. Et c'est à l'écoute de cet air que j'ai appris et que donc peut-être vous aussi vous avez découvert que farfallone en italien, papillon, cela désigne aussi les pattes, les farfallés qui sont en forme de papillon. Voilà, vous aurez appris un mot pour ce vendredi matin. Ces Noces de Figaro, le mariage de Figaro dans la trilogie de Beaumarchais, fait donc partie d'un ensemble de trois pièces. Le Barbier de Séville, Le mariage de Figaro et La mère coupable. Alors voici tout de suite une scène d'orage, Le barbier de Séville. Thank you. Toujours Beaumarchais sur Radio Classique pour célébrer les 200 ans donc du Figaro. Nous écoutions ici Le Barbier de Séville, cette scène d'orage de Rossini par l'orchestre Les Forces Majeures et leur chef fondateur Raphaël Merlin, lui qui est aussi un ancien membre du Quatuor Ébène, qui vient de faire paraître un nouvel album, une pure beauté chez Erato. Deux octuors à cordes, et ils se sont associés pour cela au Quatuor Belchea. Deux octuors, l'un d'Enesco, l'autre de Mendelssohn. Écoutez ici ce scherzo si frémissant. scherzo, frémissant, léger, vif, argent, comme Mendelssohn sait si bien les écrire, dans cet octuor à cordes. Et c'est un petit miracle joué par les quatuors Eben et Belchea, ici réunis, qui ont enchanté le public de la Philharmonie de Paris en quatuor de la Biennale de quatuor à cordes il y a quelques jours. Un album que je vous recommande très chaleureusement. Place tout de suite à un fleuve mythique, romantique à souhait, qui a inspiré bien des artistes, le Rhin, qui n'a d'ailleurs pas inspiré que les compositeurs germaniques qui ont chanté les sortilèges du Rhin. Les Français ne sont pas en reste. Georges Bizet notamment, qui chante le Rhin, ce beau fleuve où chaque promontoire a gravé sur son roc sa fable ou son histoire. Le Rhin parle, il raconte avec sa grande voix les drames ténébreux et les exploits sublimes, autrefois accomplis au fond de ses abîmes, au soleil de ses tours, à l'ombre de ses bois.
Changer d'air jusqu'à midi sur Radio Classique.
Le Rhin, cet immense fleuve célébré, donc chanté par deux artistes, l'un français, Georges Bizet, et ses Chants du Rhin, joué par Nathalie Gouin au piano, et puis à l'instant Le Rhin par Robert Schumann, qui a longtemps donc contemplé le Rhin avant de s'y jeter. Cette troisième symphonie, elle est sous-titrée Rhénan, et nous écoutions ici son finale très animée par l'Orchestre de Chambre d'Europe et par Yannick Nézet-Séguin.
Améliorez votre expérience d'écoute de Radio Classique grâce au DAB+. Bénéficiez d'une qualité sonore exceptionnelle et de données plus complètes sur la programmation musicale. Plongez au cœur de vos chefs-d'œuvre préférés sans interférence ni grésillement. Une radio gratuite en qualité numérique, sans abonnement ni connexion Internet. Radio Classique vous accompagne en haute définition grâce à la technologie DAB+. Plus d'informations sur dab+.fr.
Union des coopératives agricoles françaises, Invivo s'engage pour une agriculture résiliente, souveraine, rentable et durable. Invivo accompagne la transition agricole et soutient notre souveraineté alimentaire avec des solutions innovantes et responsables au service des agriculteurs. Avec Invivo, cultivez vos connaissances éco dans le décryptage à 7h54 sur Radio Classique.
Renault. Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2700 euros. Prime maximum, certes énergie déduite, si accordiaque. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Pensez à covoiturer. Renault.
En France, 3 millions de personnes sont atteintes d'une maladie génétique. En faisant un leg à l'Institut Imagine, vous pouvez les aider. Comme en témoigne la maman de Maya.
Maya souffre d'une maladie génétique pour laquelle il n'y a pas de traitement. En faisant un leg, vous apportez votre soutien aux familles. C'est nous donner l'espoir de comprendre, de traiter et d'un jour guérir nos enfants. C'est un geste d'amour.
Transmettez l'espoir, transmettez la vie. Faites un leg à l'Institut des maladies génétiques sur institutimagine.org.
Le pianiste de 14 ans, Lucas Chiche, investit la salle Gaveau en compagnie de l'Orchestre Lamoureux, sous la direction d'Adrien Perruchon, pour une soirée dédiée à Mozart, le modèle du musicien surdoué. De la 41e symphonie au concerto pour piano numéro 20, un programme virtuose, où le jeune pianiste mariera l'énergie de sa jeunesse à l'expérience de ses aînés. Une rencontre musicale inédite avec l'Orchestre Lamoureux et Lucas Chiche, le 1er février à 15h. Réservation sur salgavo.com.
On peut y aller, Sonia, je suis prêt.
Un petit coup de peigne et c'est parti.
On y va.
Il y a votre fille Cécile qui passe dîner ce soir, non? Qu'est-ce qu'on lui prépare de bon?
Ah ben des lasagnes, c'est son plat préféré depuis qu'elle est toute petite.
Parfait, on passe par le marché d'abord et ensuite on cuisine.
Aide aux seniors, gestes du quotidien, courses repas, lien social, ménage repassage. Avec O2, faire ensemble, c'est vivre mieux chez soi. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur o2.fr.
Sophie Lemonnier-Valaise, violoniste et directrice musicale de Voyage d'Exception.
Voyage d'Exception, c'est le spécialiste des croisières musicales. Des voyages uniques, des bateaux haut de gamme et à taille humaine. Des fleuves majestueux, le Danube, le Douro, la Moldau ou encore la Seine. Une ambiance intimiste avec Jean-François Zigel, Philippe Bernold, Laurent Corsia, Dana Ciocarli et d'autres musiciens de renom qui partagent avec vous leur passion pour la musique.
Renseignements et réservations au 01 75 77 87 48 ou sur voyage-exception.fr.
Renault.
Vous connaissez Clio depuis 35 ans, mais saviez-vous qu'elle est aussi la muse de l'histoire depuis la nuit des temps? Aujourd'hui, Renault écrit un nouveau chapitre. Nouvelle motorisation full hybride E-Tech 160 chevaux sans recharge. 1000 km d'autonomie, Open Air Link avec Google intégré et plus de 100 applications. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, découvrez nouvelle Renault Clio.
Jusqu'à 1000 km avec